Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Il aura été patient Emmanuel Macron, plusieurs mois à l'attendre, mais cette fois plus rien ne semble devoir faire obstacle au couple qu'il est censé former comme tout président sous la 5ème République, avec le chancelier allemand, en l'occurrence la chancelière Angela Merkel. La voilà enfin dotée d'une coalition pour gouverner, l'un et l'autre ont 4 années devant eux, c'est le grand retour du couple franco-allemand. Et cela tombe bien, car ensemble, ils ont des projets. On pouvait s'attendre à ce qu'ils les déclinent jeudi et vendredi dernier, lors du Conseil européen à Bruxelles, mais les tractations post-législatives outre-Rhin ont retardé leur mise en route. Une feuille de route commune sera présentée aux autres membres de l'Union européenne lors du prochain sommet, à la fin du mois de juin. Alors, parmi les chantiers auxquels Angela Merkel et Emmanuel Macron ont choisi de se confronter, il y a la réforme de la zone euro, l'harmonisation fiscale, mais aussi la création d'une défense européenne autonome. Autant de dossiers que Berlin et Paris ne peuvent mener seuls, mais sans qui rien ne peut se faire. C'est en tout cas ainsi qu'a fonctionné l'Europe pendant des années. Est-ce que c'est toujours le cas et faut-il tout miser sur le couple franco-allemand ? C'est le sujet de discussion de ce soir en compagnie de 3 invités. Barbara Kunz, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheuse au comité d'études des relations franco-allemandes de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Vous travaillez notamment sur les questions de défense et vous avez publié l'an dernier, c'était il y a quelques semaines de cela, aux presses universitaires du Septentrion, l'Allemagne sur la scène internationale. Pour discuter avec vous, Marion Gaillard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historienne, spécialiste des relations franco-allemandes et des questions européennes et vous enseignez à Sciences Po Paris. Et puis notre troisième invitée est au téléphone, elle est en Autriche, il s'agit d'Ulrike Guéraud, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, professeure à la Danube Université de Krems, c'est en Autriche, par ailleurs fondatrice et directrice du think tank European Democracy Lab à Berlin, le laboratoire de la démocratie européenne pour ceux qui ne parlent pas complètement anglais, ce qui est parfois mon cas. Alors, on va évoquer ce couple franco-allemand, ce qui peut paraître peut-être un petit peu étrange de le faire aujourd'hui, alors que Angela Merkel est quand même au pouvoir en Allemagne depuis de longues années et qu'Emmanuel Macron, lui, est à l'Élysée depuis quelques mois. Ça fera bientôt un an au mois de mai. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il aura fallu attendre mars 2018 pour que ce couple franco-allemand redémarre pleinement, Marion Gaillard ?
Oui, parce que Emmanuel Macron a fait une campagne très pro-européenne dans laquelle il s'est singularisé aussi par le fait qu'il n'avait pas du tout de discours germanophobe. Il a dit « je ne vais pas faire l'Europe contre l'Allemagne, je vais la faire avec l'Allemagne », ce qui est assez rare en France. Et il attendait sa partenaire et du coup, elle ne pouvait pas du tout s'engager avant l'élection. Et ensuite, elle ne pouvait pas s'engager tant qu'elle n'était pas vraiment réinvestie à la chancellerie. Donc, il a fallu du temps. Alors, peut-être que le couple travaillera d'autant mieux qu'il est préparé depuis longtemps maintenant. On verra ça.
Elle ne pouvait pas s'engager ni avant l'élection, ni pendant les négociations sur la coalition. Barbara Kunz, pourquoi ? Parce que sur l'Europe, il y avait trop de dissensions avec ses éventuels partenaires et au niveau de l'électorat pour qu'elle aille très en avant, comme a pu le faire Emmanuel Macron ?
Disons que la grande crainte d'une partie de l'Allemagne, c'est de devoir payer pour la France et pour l'Europe du Sud en général. Et donc, afin de ne pas attiser ce débat-là en pleine campagne électorale, où il y avait aussi des partis en Allemagne qui étaient tout à fait prêts à faire campagne sur ce genre de sujet, il était beaucoup plus sage d'être un peu, disons, calme par rapport à l'Europe. Et puis après, c'était une question de culture démocratique. Tant qu'elle n'a pas de majorité au Parlement, elle ne pouvait pas passer exprimer. Et peut-être pour ajouter juste un point important aussi dans la question que vous venez de poser, je pense que ce qui est important avec Macron, c'est aussi qu'il est prêt à faire des réformes structurelles en France. C'est ce que l'Allemagne attend depuis des années de tous les présidents français et où, de son point de vue, elle a dû attendre Macron pour que ça se fasse.
Ulrike Guéraud, les questions européennes, c'est devenu un sujet sensible, en tout cas suffisamment sensible pour être abordé avec prudence quand il y a des élections en Allemagne ?
C'est redevenu un sujet. Hein. On a fait tout un discours que maintenant il est temps que là l'Allemagne réponde à Emmanuel Macron qui a fait son grand discours le 26 septembre à la Sorbonne. Et donc en fait ça a traîné en fait justement les négociations de coalition. Est-ce que maintenant ça va faire mouvement ? Je ne sais pas parce que il est vrai que Madame Merkel, Monsieur Scholz, Monsieur Maas sont partis tout de suite à Paris. Donc il y avait un peu ça, c'est-à-dire que là maintenant le nouveau gouvernement est inauguré, donc on peut commencer commencé. Il n'empêche que, je dois être honnête, ça fait pas grand tabac, cette espèce de réflexe franco-allemand maintenant. Je pense que c'est plutôt un peu toujours à la traîne et que, disons, la grande envie d'embrasser la France pour une grande vision de l'Europe, je la sens mal en Allemagne, même que c'est meilleur qu'avant.
Alors, est-ce qu'on pourrait dire que l'inverse n'est pas vrai? C'est-à-dire qu'il y a peut-être davantage aujourd'hui en France une envie de faire renaître ce couple franco-allemand qui avait peut-être été davantage à la peine sous le précédent quinquennat, Marion Gaillard?
Alors, en France, je ne sais pas, je dirais pas ça en France. Je suis pas sûre, les Français ne se distinguent pas toujours par une grande germanophilie. Et un certain nombre de personnalités sur la scène politique se distinguent même parfois par leur germanophobie. Mais en revanche, à la tête de l'État, c'est certain. C'est certain, à l'Élysée et puis chez Bruno Le Maire, par exemple, qui est très germanophile. Donc, on a cette attente-là de ce couple. Et en Allemagne, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit par Ulrike Guéraud. Mais par contre, il y a quand même une avancée, une nouveauté, puisqu'on sort d'une grande coalition SPD de CDU. Qu'est-ce qui est nouveau dans cette nouvelle grande coalition? C'est que l'Europe figure comme point numéro un de l'accord de grande coalition, ce qui n'était pas le cas dans la grande coalition précédente, et que la France est mentionnée en tant que telle. On va faire avancer l'Europe avec la France, ce qui n'a jamais été mentionné dans un accord de grande coalition. Donc ça, c'est une nouveauté qui peut laisser augurer éventuellement d'une relance du couple franco-allemand.
Oui, parce qu'il faut mentionner le titre de cet accord de coalition. Un nouvel élan pour l'Europe, une nouvelle dynamique pour l'Allemagne, une nouvelle cohésion pour notre pays. Un nouvel élan pour l'Europe, c'est ce qui apparaît en premier, Barbara Kuhn, c'est quand même important.
C'est important. En même temps, je me dis, il faut quand même bien distinguer la rhétorique et les réalités. C'est que, bon, on proclame cette envie de nouvel élan pour l'Europe, mais quand on regarde de près, ça confirme quand même la thèse que l'Allemagne est une puissance du statu quo en Europe. C'est-à-dire que tout le monde... Disons, il y a consensus politique sur l'importance de l'Europe. On y tient vraiment, c'est important, ça fait partie de la raison d'État en Allemagne. Mais par contre, cette volonté de réformer cette Europe, en Allemagne, n'est pas très répandue. Donc, disons que Macron n'a pas affaire à des visions concrètes sur la réforme de l'Europe en Allemagne, mais plutôt à une Allemagne très pro-européenne, mais qui finalement est relativement contente de l'état actuel dans l'Union européenne.
Mais cette forme de conservatisme, disons Barbara Kuhn, c'est quelque chose qui existe depuis toujours, ou bien c'est une approche qui est plus liée peut-être à la personnalité, à la politique d'Angela Merkel? C'est-à-dire de ne pas être forcément adepte de grandes réformes pour l'Union.
Il y a certainement de ça, mais après, quand on regarde de près les différents domaines politiques dans l'Europe, je pense que tout d'abord, l'eurozone, l'Allemagne trouve que ça va plutôt bien dans l'état actuel. Ensuite, l'Europe de la défense n'a jamais vraiment fait partie des grandes priorités allemandes et ça n'a pas changé aujourd'hui. Politique migratoire, on aimerait bien qu'il se passe des choses au niveau européen, mais disons qu'il y a une certaine déception à ce point-là à Berlin. Et donc, si vous ajoutez comme ça les différents domaines politiques, moi, j'en vois aucun où l'Allemagne ait vraiment envie de tout remettre à plat pour reconstruire l'Europe.
Alors, on va examiner justement chacun de ces thèmes, mais peut-être pour rester encore sur quelques généralités, Ulrike Guéraud, est-ce qu'on n'est pas aussi face à une forme de répartition assez traditionnelle des rôles, c'est-à-dire la France qui reviendrait avec des propositions un petit peu flamboyantes, voilà, cette espèce de tradition de la diplomatie, de moteur politique de l'Europe, et puis derrière une Allemagne qui est là peut-être davantage pour tempérer, pour être une forme de d'îlot, enfin peut-être pas d'îlot, mais enfin en tout cas une forme de grande stabilité pour rassurer aussi peut-être les autres pays membres de l'Union européenne.
D'abord, je suis entièrement d'accord avec l'analyse de Madame Kuhn. Et c'est vraiment très important de souligner que autant que la France a la nécessité de réformer, parce que la France a quand même mal traversé la crise de l'euro, il y avait tout ce débat, Marine Le Pen, enfin hein, Macron, ce victoire, un pays qui de justesse en fait a échappé au nationalisme populisme avec une gauche qui est filétisée entre Mélenchon, Macron, Hamon, voilà, et une Allemagne qui sort de la crise de l'euro, la crise bancaire, la crise de l'austérité. été très très bien. Donc
avec l'extrême droite représentée au Bundestag aujourd'hui, donc on peut pas dire qu'elle en sort totalement indemne.
Mais qui économiquement sort très bien de la crise. Hein. L'Allemagne a les caisses remplies, donc il y a aucun, c'est-à-dire cette notion économique qui l'emporte, parce que c'est quand même très. Je suis d'accord, on a 16% de l'AFD et c'est grave, première partie de l'opposition, donc ça change la donne aussi en Allemagne. C'est d'ailleurs aussi pourquoi l'Allemagne est maintenant crispée de faire des avances sur l'Europe. Mais revenons à l'analyse de base. Est-ce que la France et l'Allemagne ont la même énergie, le même élan et la même motivation d'engager de remettre à plat l'Europe? Eh ben non. Macron là, l'Allemagne beaucoup moins, non seulement parce qu'elle a beaucoup moins d'intérêt, parce que c'est cette conservatisme structurel, cette peur de devoir payer pour la France, mais c'est aussi la crainte de l'AFD. Donc ça fait une donnée tout à fait différente de la France que de l'Allemagne. Deuxième petite remarque, sur la surface, et là aussi je suis tout à fait d'accord avec Madame Kunz, maintenant on fait du franco-allemand, le démarrage, oui c'est dans le traité de coalition, mais regardez le 7 février, regardez ce qui s'est passé sur la question des Spitzenkandidaten, c'est-à-dire du moment où Macron a une réelle ambition pour l'Europe, c'est-à-dire il veut resécuer le système partisan, il veut reformer un mouvement transnational et tout, et ben les listes transnationales, on a voté contre, et qui a voté contre au Parlement européen? C'était justement les députés de la CDU qui quand même ont voté contre, en fait, les plans de Macron de restructurer les partis au niveau européen. C'est très grave parce que l'Allemagne s'est montrée volontaire pour supporter les Spitzenkandidaten. Macron était contre les Spitzenkandidaten. Pourquoi? Il ne peut pas en avoir un tant qu'il n'est pas au Parlement européen. Donc, en fait, sous maintenant toute cette dynamique franco-allemande que je partage, qui est important, il y a quand même aussi une lutte. Et cette bagarre, c'est une bagarre sur qui prime, qui domine sur l'Europe, sur son pouvoir, et qui domine aussi sur qu'est-ce qu'on va maintenant faire en Europe. Et là, je trouve que c'est un peu moins rose.
Alors, vous avez parlé de Spitzenkandidaten. Qu'est-ce que ça veut dire, Marion Gaillard, juste la traduction?
Oui, c'est les têtes de liste. C'est-à-dire que dans les élections de 2014, les partis du Parlement européen avaient désigné une tête de liste qui serait amenée à être président de la Commission en cas de victoire de ce parti, ce qui était une nouveauté qui n'était pas inscrite dans le traité de Lisbonne, donc on a appelé ça une forme de coup d'État démocratique, et Madame Merkel, dans mon souvenir, n'y était pas favorable en 2014, et on sait qu'aujourd'hui Emmanuel Macron n'est pas favorable à ça, ce qui serait de mon point de vue un recul énorme si on ne reconduit pas ce système qui, à mon sens, est de nature à pouvoir rendre l'Europe un peu plus visible, un peu plus lisible pour les électeurs et donc à lutter contre le déficit démocratique. Et là-dessus, on va voir comment se comporte le couple. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit par Madame Guéraud, c'est-à-dire le fait que la CDU a mis des bâtons dans les roues pour la question des listes transnationales et qu'on a donc une divergence assez importante sur la question de la rénovation du système institutionnel ou en tout cas de la gouvernance politique de l'UE.
Mais pourquoi est-ce qu'il y a eu justement cette opposition sur les listes transnationales? Parce que si ces listes transnationales devaient voir le jour pour les élections européennes, donc qui auront lieu en 2019. Ça pourrait aussi vouloir dire que peut-être qu'on retrouverait des eurodéputés qui seraient issus, par exemple, de La République En Marche, qui siégeraient aux côtés de la CDU, qui viendrait donc d'Allemagne. Est-ce que ça veut dire que s'il y a cette opposition, c'est qu'il y a aussi une opposition idéologique et que Angela Merkel considère que sur le plan des idées, sur le plan des programmes politiques, elle n'est pas tout à fait en accord avec ce que représenterait aujourd'hui la majorité en France avec La République En Marche. Je ne sais pas, Ulrich Guéraud.
Écoutez, le problème étant que Macron n'a pas encore une partie qui est représentant au Parlement européen. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être en faveur des Spitzenkandidaten parce que uniquement des partis qui sont déjà présents au Parlement européen peuvent en avoir. Donc, du coup, il perdra. De l'autre côté, les Allemands, autrement dit Madame Merkel, la CDU, ne peut pas avoir intérêt d'une certaine, disons que Macron, pour simplifier, veut faire ce qu'il a fait en France, c'est-à-dire faire rompre carrément le système partisane et de reconstruire. Et c'est un peu ça l'idée. D'ailleurs, Macron, il a fait une conférence de presse qu'il est quand même beaucoup lue en Allemagne, c'est-à-dire que il a plus ou moins annoncé qu'il veut restructurer les partis au niveau européen, c'est-à-dire au niveau du Parlement européen. C'est-à-dire qu'il semble, ça a été reporté dans des médias allemands, que Macron aurait l'idée de faire un mouvement européen, c'est-à-dire de prendre quelques députés du groupe ALDE, des libéraux, quelques députés des sociaux démocrate déçu, ainsi de suite, c'est-à-dire de faire grande force transnationale au niveau européen. Et là, le PPE, donc le parti où la CDU est organisée, ne peut pas avoir d'intérêt. Donc, tout ça pour dire que du moment où Macron montre une réelle ambition pour l'Europe qui peut endommager en fait le pouvoir allemand dans le système, du coup, ça n'est plus tellement rose côté allemand. Et c'est pour ça que sous-jacente, sous maintenant la grande vision du franco-allemand, on va faire quelques réformes sur la zone euro, je trouve qu'à un niveau en dessous, réellement, il y a quand même une certaine bagarre franco-allemand sur qui se positionne comment sur l'Europe. Et là, il est clair que Macron veut aller beaucoup plus en avant que les Allemands aujourd'hui sont prêts à faire, je pense.
Et on a pu s'en rendre compte lors de son grand discours sur l'Europe qui était à Paris, à la Sorbonne. C'était le 26 septembre dernier. Il y en avait un qui l'avait précédé de quelques jours. Déjà, il s'est exprimé à Athènes et il avait déjà parlé de l'Europe. Et là, le 26 septembre, c'est-à-dire deux jours seulement après les législatives allemandes, ce qui n'est peut-être pas totalement lié au hasard, il s'exprime sur l'Europe, discours très long, dans lequel, évidemment, il est question du couple franco-allemand.
Je propose en premier lieu à l'Allemagne un partenariat nouveau. Nous ne serons pas d'accord sur tout, ou pas tout de suite, mais nous discuterons de tout, sur tous les sujets que j'ai évoqués. Nous pouvons donner une impulsion franco-allemande décisive et concrète. Pourquoi ne pas commencer ensemble l'agence de l'innovation de rupture ? Lancer un programme commun d'intelligence artificielle qui ferait de l'Europe le moteur de la croissance mondiale ? Pourquoi ne pas se donner, d'ici à 2024, d'intégrer totalement nos marchés en appliquant les mêmes règles à nos entreprises, du droit des affaires au droit des faillites ? Cet esprit pionnier et concret, c'est celui du traité de l'Élysée. Alors, travaillons et consignons ces engagements communs dans un nouveau traité de coopération que nous pourrons signer ensemble pour le 55e anniversaire du traité fondateur, le 22 janvier 2018. Refaisons un traité de l'Élysée, le 22 janvier prochain.
Alors, refaire un traité de l'Élysée pour c'était le 55e anniversaire, hein, je crois, en janvier. Bon, finalement, il n'y a pas eu ce nouveau traité parce que Angela Merkel, notamment, était dans ses tractations pour essayer de former une coalition. Il y a plusieurs propositions qui sont faites dans cet extrait par Emmanuel Macron. À la lumière de ce que vous avez dit les unes et les autres, est-ce que il faut comprendre cette intervention, cette adresse à l'égard de l'Allemagne par Barbara Kunz comme une façon aussi peut-être de forcer un petit peu la main à Angela Merkel, de la pousser un petit peu pour qu'elle réagisse et pour qu'elle l'accompagne dans ses volontés de réforme?
Oui, il y a très certainement de ça. D'ailleurs, pas seulement dans ce discours à la Sorbonne, mais lors d'autres interventions. Après, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment la bonne approche. Enfin, déjà, de proposer en septembre un nouveau traité pour janvier prouve qu'il n'y a peut-être pas de connaissances très profondes du fonctionnement de la bureaucratie allemande derrière. Et on l'a bien vu, même avec un gouvernement dès septembre, ce traité n'aurait jamais pu voir le jour. Donc c'est peut-être anodin, mais ça illustre un peu cette vision aussi qu'on a parfois en Allemagne d'un jeune président bonapartiste qui veut tout à la fois et contre lequel Merkel doit rester posée pour ne pas se laisser emballer.
Dans Sud-Ouest aujourd'hui, il y a une analyse de Christian Lequen, qui est spécialiste de relations internationales et qui s'intéresse notamment aux questions européennes, et qui dit ceci, je voudrais que vous me disiez ce que vous en pensez, la stratégie d'Emmanuel Macron semble reposer sur la chancelière davantage que sur sa coalition. Elle part de l'idée, cette stratégie, qu'Angela Merkel voudra laisser une empreinte européenne dans l'histoire et accepter de porter des réformes. Vous en pensez quoi, Marion Gaillard ?
J'en pense que c'est une analyse franco-française de la situation en Allemagne, et que il serait temps que dans les hautes sphères de l'État français, on comprenne que c'est pas la 5e République en Allemagne, et encore moins le régime bonapartiste. Et donc effectivement, c'est pas elle qui va faire tout toute seule, et elle a besoin de sa coalition, elle ne pourra rien faire sans sa coalition. Et par ailleurs, les ministres ont quand même des marges de manœuvre relativement importantes, comme on a pu le voir sur le cafouillage, sur le glyphosate par exemple en Allemagne.
Et pourtant, donc, quand on parle de l'Allemagne, on ne voit qu'Angela Merkel. C'est-à-dire oui. Pendant de longues années, on l'a même présentée comme la grande patronne de l'Europe.
Oui, c'est vrai, mais en même temps, on se rend compte que sur la zone euro, la crise grecque, elle a dû batailler dur contre Schäuble et qu'elle a fini par l'emporter d'une certaine manière dans le sauvetage de la Grèce. Mais en même temps, c'est beaucoup plus compliqué qu'en France. Donc ça, c'est très typique de l'analyse française, et je rejoins ce qui a été dit par Barbara Kuntz, cette idée de nouveau traité, je n'ai jamais vraiment compris d'où ça sortait et comment on pensait qu'on allait pouvoir faire un nouveau traité franco-allemand en quelques semaines. Et par ailleurs, j'en vois, à vrai dire, pas vraiment l'utilité, parce que le traité de l'Élysée est un bon outil qui a su bien évoluer au fil des années et qui pose les bases d'une coopération bilatérale solide. Donc franchement, c'est pas l'urgence de mon point de vue. Donc ça, j'avoue que j'ai pas tellement compris. Et du coup, on est dans de l'affichage politique, et il faudrait pas, et je rejoins tout à fait ce qui a été dit aussi par Ulrike Guérou, il ne faut pas être dans un affichage ni pour le franco-allemand, ni pour l'Europe. Il ne faut pas, là, aujourd'hui, que Macron présente ce couple comme le nouveau Zorro qui va sauver l'Europe à lui tout seul, parce que ça ne sera pas le cas. Donc c'est un moteur indispensable, mais c'est un moteur qui a des désaccords. Et là-dessus, par contre, je le rejoins. On sera pas d'accord tout de suite. Ça n'a jamais été le cas au sein du couple franco-allemand. Ils ont jamais été d'accord tout de suite. Donc là, c'est reprendre une vieille tradition de négociation. On n'est pas d'accord. On s'assoit autour de la table. On essaye de forger un compromis. Mais il faut pas penser qu'ils vont réussir à sauver l'Europe à eux tout seuls. Et donc, il faut pas donner cette impression. Sinon, on va aller vers des déceptions dans l'opinion publique.
Barbara Kuntz.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. J'aimerais rajouter deux points. Le premier, c'est que il faut, en France, il faut vraiment comprendre que Merkel a besoin d'une double majorité. Elle a besoin d'une majorité au sein même de son parti, ce qui n'est pas évident du tout, vu que c'est une bonne partie du CDU qui craint, principalement a peur de devoir payer pour la France. Et donc, deuxièmement, elle a besoin d'une majorité au Parlement, c'est-à-dire avec son partenaire de coalition, le SPD. Donc ça, c'est la première chose à comprendre. La deuxième chose à comprendre, c'est aussi de voir que les arguments qui servent à, si je peux le formuler ainsi, à vendre cette idée européenne en France, ne sont pas forcément les arguments qui fonctionnent en Allemagne. Pour prendre l'exemple de l'Europe qui protège, personne ne raisonne dans ces termes-là en Allemagne. Ce n'est pas l'argument vendeur. Donc là aussi, il y a un effort, je vais dire, interculturel à faire afin de vraiment permettre à ce débat de décoller.
Alors, j'allais justement demander à Ulrike Guérou comment ces propositions d'Emmanuel Macron avaient été reçues en Allemagne. Est-ce qu'elles n'ont pas presque davantage embarrassé Angela Merkel qu'autre chose, parce qu'elles arrivaient, je le rappelle, hein, deux jours après les résultats des élections législatives. Alors bon, le président français imaginait sans doute pas que les tractations pour la coalition prendraient autant de temps. Enfin, on va dire que le calendrier faisait que c'était peut-être pas le meilleur des moments pour avoir une réponse absolument enthousiaste de la part de la chancelière allemande.
Je peux comprendre que justement c'était côté allemand pas le meilleur moment, un peu trop vite, trop tempestif et tout cela, mais Macron a voulu d'influencer les négociations de coalition, et à mon avis, il a aussi bien raison. Macron, il sent une urgence de redresser l'Europe, et je trouve qu'il a raison, parce que chaque jour de plus qu'on discute, on perd du temps, et les autres, enfin appelons les autres, les populistes, les nationalistes, ils gagnent du terrain. Donc il y a aussi une question d'urgence qui est là, qui se sent plus en France qu'en Allemagne, ça c'est sûr, mais je peux tout à fait comprendre le besoin, enfin, qu'avait Macron de dire maintenant, on a 2-3 ans pour avancer, parce que il faut pas oublier, on a perdu énormément de temps, pour juste une marche en arrière, mais tout ce que Macron a proposé, c'est quand même du vin dans des, en allemand on dit, alter Wein in neuen Schläuchen, donc du vieux vin dans des nouveaux tuyaux. Ce que je veux dire, que toute cette réforme Eurozone, Parlement, le budget, le ministre des Finances et tout, c'était sur la table en 2012 quand on a eu le sommet européen, quand Draghi a fait ces mots de whatever it takes, quand il y avait déjà sur la table Genuine Economic Monetary Union, donc les plans pour réformer la zone euro, ça fait belle lurette, ça fait 5-6 ans qu'on traîne les pieds. Donc je peux tout à fait comprendre que Macron a saisi le moment pour dire allez hop, maintenant on passe, et donc du coup il arrive après le 26 septembre. Mais deux choses, je trouve effectivement côté allemand, c'était un peu du faire de la presse, de influencer une opinion allemande, mais autrement dit aussi l'opinion allemande avait en fait attendu ce moment pour réagir d'une manière négative. Ça a déjà été dit dans cette émission, mais le titre du Spiegel était Teurer Freund, l'ami qui coûte cher. Donc c'est vrai que l'opinion allemande est un peu, disons, pourrie d'une certaine manière, de dire que tout ce que vient comme proposition de réformer la zone euro, ça ne fait que coûter de l'argent. Les Allemands sont victimisés. Nous, on doit payer pour tous. Donc, c'est vrai que le discours de Macron a en fait creusé un peu là-dedans. Autre dernier mot, mais il y a quand même, et ça aussi, ça a été dit, mais une dialectique franco-allemande dans tout cela qui plaît qu'à nous. C'est-à-dire que je reviens des Pays-Bas, je reviens de la Pologne, allez les demander sur le discours Macron. C'est-à-dire ce billet franco-allemand, ça ne fait pas non plus, c'est pas non plus à la hauteur de l'Europe d'aujourd'hui, c'est-à-dire la zone euro, c'est aussi les Portugais, les Italiens, les Grecs, voilà. Et donc, quand on maintenant on cible trop la réaction allemande sur des plans français, je trouve ça fait du franco-allemand classique, mais le franco-allemand classique, c'est des temps jadis.
Et on a pu le voir d'ailleurs avec cette alliance du Nord, c'est-à-dire ces 8 pays du Nord de l'Europe qui ont exprimé un certain nombre de réserves, on va dire, hein, par rapport au plan, là encore, d'Emmanuel Macron de réforme de la zone euro. Il y a les Pays-Bas en tête, les États baltes, la Suède, la Finlande, le Danemark et l'Irlande qui considèrent en gros qu'il faut d'abord respecter les critères qui existent aujourd'hui avant de pousser un peu plus loin la réforme, même si on a appris qu'aujourd'hui la France était pas en 2017 sous la barre des fameux 3% de déficit, ce qui peut peut-être lui donner davantage, on va dire, de force de persuasion pour faire avancer son dossier. Il y a un sommet européen qui aura lieu fin juin, Marion Gaillard, avec là l'idée quand même d'avoir une espèce de feuille de route commune entre Paris et Berlin sur la question de la réforme de la zone euro. Il faut s'attendre quoi ? Une réforme à minima, justement, du fait des divergences qui peuvent exister entre l'Allemagne et la France ?
On va voir, j'espère que non, mais on revient effectivement à un ancien couple franco-allemand où on travaille à deux pour faire une feuille de route qu'on va proposer ensuite aux autres. Et comme ça a été dit, c'est pas gagné que les autres l'acceptent, même si nous, on arrive à faire un compromis. Donc la première étape, c'est faire un compromis franco-allemand. La seconde, c'est d'arriver à le faire avaler à certains pays, et notamment ceux que vous avez cités, les pays du Nord, qui sont pas du tout partants. Sans compter que l'Italie, aujourd'hui, risque d'être un facteur de blocage, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc, la réforme de la zone euro, on sait qu'ils sont à peu près d'accord sur l'idée de créer un budget d'investissement spécifique à la zone euro. En revanche, il n'y a rien dans le contrat de coalition sur les deux autres propositions essentielles relatives à la gouvernance de la zone euro qu'a faite Emmanuel Macron, c'est-à-dire la création d'un parlement propre à la zone euro et, comme ça a été dit aussi, donc d'un ministre des Finances de la zone euro.
Il en parle un peu moins d'ailleurs maintenant.
Voilà. Alors ça, c'est deux points. C'est deux points qui ne sont pas dedans, mais qui ne sont pas explicitement exclus non plus, ce qui peut laisser une marge de manœuvre. C'est pas une ligne rouge qui a été définitivement exclue de l'accord. Donc on ne sait pas trop comment ils vont réussir à négocier là-dessus. Et je suis tout à fait d'accord aussi avec Madame Guéraud, c'est-à-dire que c'est des choses qui sont sur la table depuis très longtemps, que ça n'a pas été fait et que Macron sent que la maison brûle. Et là, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. On a dit qu'il y a une forme de conservatisme de Madame Merkel parce qu'il y a une peur aussi de l'AFD. Et Macron, en France, on est passé
l'AFD,
pas loin.
Je rappelle, c'est l'extrême droite.
Voilà, c'est l'extrême droite allemande. Et on est passé en France pas loin d'une élection de Marine Le Pen, mais Macron en a tiré la conclusion inverse. C'est-à-dire, au contraire, il faut bouger sur l'Europe, il faut pas de conservatisme, il faut vraiment agir parce que la maison brûle et on a l'impression que Merkel, elle est plutôt sur « oulala, il faut pas trop avancer ». Donc, ils ont une réaction très très différente face à la montée des populismes. Et là, on a peut-être un problème d'analyse politique qui peut susciter des blocages dans les mois à venir.
Alors, Ulrike Guéraud nous disait, ça fait belle lurette qu'on parle de cette réforme de la zone euro. Alors, il y a un sujet dont on parle depuis encore plus belle lurette, c'est celui de la défense européenne. Alors là, ça remonte à quelques décennies, Barbara Kunz, même si ça a évidemment évolué. Est-ce que sur ce sujet-là, en tout cas, la France et l'Allemagne peuvent jouer un rôle moteur à la faveur notamment du Brexit, le Royaume-Uni partant, les alliances avec les États-Unis devenant beaucoup plus, distantes. Est-ce que la France et l'Allemagne ont envie d'avancer ensemble sur le sujet et de quelle manière ?
Alors, disons que ça va être très compliqué puisque l'Europe de la défense depuis toujours est un sujet qui divise plutôt qu'il unit Paris et Berlin, sachant aussi que c'est beaucoup plus compliqué que la zone euro en quelque manière, parce que pour la zone euro vous n'avez pas d'OTAN à côté, enfin d'équivalent de l'OTAN, des préférences par rapport à ça, et la monnaie on sait aussi à quoi ça sert, alors que dans tout ce qui est défense européenne, déjà on n'est pas d'accord contre quoi exactement il faut se défendre. Pour les uns c'est le sud, pour les autres c'est l'est. Pour les uns, la priorité, c'est le terrorisme. Pour les autres, c'est montrer aux Russes que c'est une mauvaise idée de venir envahir des pays européens. Donc, voilà, c'est relativement compliqué. Et disons que la France et l'Allemagne sont à des... ont des positions relativement opposées dans ce domaine. Donc,
même s'il y a quand même des propos d'Angela Merkel, en mai 2017, elle dit ceci, « Les temps où nous pouvions totalement nous reposer sur d'autres sont en partie révolus. Nous, les Européens, nous devons vraiment prendre en main notre propre destin. » Elle évoquait notamment justement le fait que ce soit désormais Donald Trump qui préside les États-Unis. Il y a quand même une évolution, même si ce n'est pas tout à fait sur la même ligne que la ligne française.
C'est une évolution sur le discours, pas tellement dans la pratique et dans la réalité de la politique de défense allemande. Après, le grand problème de cette question de défense, c'est qu'en fait, c'est une question qui vraiment dépasse l'Union européenne. C'est que l'Europe, en tant que telle, devrait vraiment réfléchir à l'avenir de sa défense. Et ça, c'est un débat qui n'a pas lieu, mais s'il avait lieu, effectivement, il y aurait un rôle de leadership franco-allemand à jouer, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, on discute des détails techniques bruxelloises.
Ulrike Gero.
Oui, je trouve que c'est, depuis quand on dirait, hein, parce que le traité de Maastricht déjà c'était le franco-allemand dans la défense et tout, je veux dire c'est aussi un débat assez éternel, sauf que effectivement elle a eu un peu plus d'urgence aussi par rapport aux crises actuelles, c'est-à-dire la Syrie, la terreur et tout. Donc je voudrais dire au niveau plus abstrait, parce qu'en effet ça n'a jamais très bien fonctionné le franco-allemand en défense, parce que la France regarde le sud, l'Allemagne regarde l'est, la Russie, les pays arabes et tout. Mais plus pire encore, me semble, qu'il y a maintenant, comment je pourrais dire ça, un shift, hein, donc un changement des connotations. C'est-à-dire que l'Europe était un projet de paix et maintenant l'Europe devient un projet de sécurité. La seule chose avec laquelle on peut encore mobiliser pour l'Europe, c'est l'Europe qui protège, d'ailleurs les mots de Macron, donc l'Europe de sécurité, et très souvent c'est donc sécurité contre les réfugiés, Frontex, grand débat en Allemagne, ou alors sécurité, les terroristes, grand débat en France. Là aussi, France, terreur, Allemagne, réfugiés. Donc on a des réflexes très différents dans nos sociétés et on comprend pourquoi. Donc déjà des réflexes différents, c'est un problème, mais d'une manière pire, je trouve que c'est très problématique maintenant d'articuler le projet européen sur la seule et unique question de sécurité, parce que quand on dit sécurité, très souvent on perd la liberté, voilà, c'est une chose, et puis il ne faut pas oublier que d'autres, donc l'Autriche, enfin d'autres pays maintenant, ont un discours très très fort qui dit sécurité, mais du coup c'est pas du tout l'Europe libérale que ceux qui se disent pro-européennes imaginent. Donc quand on entend par exemple le chancelier autrichien, quand il parle de l'Europe, des pays fondateurs, l'Europe des patries, l'Europe de la sécurité, il a quand même une toute autre Europe en tête que Macron quand il dit l'Europe qui protège. Donc c'est un peu risqué, je voulais rajouter ça au niveau, des paradigmes.
Vous avez finalement toutes les trois exprimé un certain nombre de réserves ce soir par rapport à la pertinence de ce couple franco-allemand, en tout cas tel qu'il a pu exister jusque-là. Est-ce qu'il y a quand même des domaines dans lesquels vous diriez que ce couple, ce moteur, reste aujourd'hui indispensable au sein de l'Union européenne pour son bon fonctionnement, Marion Gaillard?
Ça va vous paraître paradoxal, je pense que le couple franco-allemand reste indispensable dans tous les domaines. C'est pas parce qu'on a du mal à converger et qu'on n'est pas d'accord qu'il n'est pas indispensable. Il n'y a pas de réelle alternative comme moteur de l'Europe en dehors d'un moteur que j'appellerais de mes voeux en tant que fédéraliste européenne, qui serait la Commission européenne. Mais on n'en est pas là parce que peu de pays aujourd'hui étant gouvernés plutôt, on a quand même une dérive vers des gouvernements assez nationalistes, donc peu de pays sont prêts à donner le leadership à la Commission européenne. Donc dans
cette puis il faudrait peut-être qu'elle ait davantage de légitimité démocratique, cette elle commission, même si elle est légitimée par le Parlement désormais.
Elle a une double légitimité puisque le Parlement élit le président et qu'ensuite, le Parlement investit l'intégralité de la Commission. Mais c'est surtout
pour aller encore plus loin et élire le président de la Commission.
Alors, il y a cette idée d'élire qui avait été d'ailleurs mise sur le tapis par Wolfgang Schäuble, d'élire le président de l'Union européenne au suffrage universel direct. Alors, ça m'étonne de la part d'un Allemand et moi, en tant que Française, je devrais être favorable et je n'aime pas trop cette transposition de la Ve République au niveau européen. Donc, je préfère un président de la Commission. Moi, je suis favorable à un président de l'UE, c'est-à-dire à la fusion du président du Conseil européen, du président de la Commission européenne et que celui-ci émane d'un vote du Parlement européen. Mais ça, ce sont des évolutions très très supranationales qui, pour l'instant, n'ont pas la cote dans les différentes chancelleries en Europe. Donc, dans la configuration actuelle, le couple franco-allemand, pour moi, il est complètement indispensable. Et donc, il faut qu'il arrive à trouver un consensus. Ce sera pas facile et en même temps, ce sera peut-être pas plus difficile que dans les quinquennats et même septennats précédents. Donc, on a quand même, disons, une fenêtre de tir peut-être un peu plus favorable que sous le quinquennat Hollande ou sous le quinquennat même de Nicolas Sarkozy.
Vous êtes d'accord avec ça, Barbara Kunz? Le couple franco-allemand, c'est peut-être pas l'idéal, mais pour l'instant, disons qu'on n'a pas mieux.
Je suis tout à fait d'accord. Pour citer un peu la phrase habituelle d'Angela Merkel, il y a pas d'alternative. Et je pense qu'à Berlin et à Paris, on le sait ça. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de désaccord fondamental entre les deux pays sur la volonté de faire l'Europe ou de la préserver. Le débat porte sur le comment et le jusqu'où. Et ça, c'est vraiment une base de travail. Après, je pense qu'il y a effectivement...
Les désaccords sont d'abord des accords de forme. Davantage que des accords de fond sur le type de politique à mener.
Ce sont vraiment des... Non, enfin, je veux dire, c'est quand même des désaccords de forme, mais personne ne remet en cause l'intégration européenne, ce qui, au vu des dernières campagnes électorales, n'est pas évident. Enfin, avec Marine Le Pen à l'Élysée, ça aurait été un peu différent, je pense, le débat sur le couple franco-allemand. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'on est quand même parti sur de bonnes bases. Il y a un certain travail interculturel à faire, notamment en France, si je puis me permettre de dire ça comme ça. Et il y a aussi une vraie responsabilité pour ce couple de garder en tête qu'on n'est pas dans un directoire franco-allemand, mais bien dans une Europe à 28, bientôt 27, et que les points de vue des autres sont tout à fait légitimes aussi et à prendre en compte.
Ulrike Guéro.
Je voudrais bien rajouter, parce qu'il me semble quand même que le franco-allemand s'est dépassé. Pourquoi s'est dépassé? Parce que qui sont aujourd'hui les Français? C'est les Marine Le Pen ou c'est les Macron français ou les Mélenchon français? Aujourd'hui en Allemagne, c'est AfD, Pegida ou c'est Pulse of Europe? Donc, les Britanniques aujourd'hui, c'est qui? Ceux pro-Brexit ou contre-Brexit? En Autriche, le pays est diversé. Il y a un livre qui est sur le marché en Allemagne, en Autriche, Der neue Kampf um Österreich, Der neue Bürger. La guerre civile en Autriche, voilà. Donc, je trouve qu'on approche quand même un moment historique où plutôt d'être divisé par nation, les Français et les Allemands, qui doivent ou peuvent pas s'entendre sur un projet européen, c'était hier. Aujourd'hui, c'est plutôt, regardez en Pologne, ceux qui sont pour le gouvernement de la PiS, ceux qui sont contre, ainsi de suite, c'est-à-dire qu'on est partagé en nation sur l'Europe.
Donc, et alors, vous voulez qu'on s'entende comment, ouais. Si ce n'est pas par nation?
Je pense que, par exemple, Thomas Piketty avec Stéphanie Hennette, il y a des auteurs français qui ont promu un projet traité pour la démocratisation de l'Europe. Je pense qu'il y a d'autres notions, notamment celui du citoyen, de la citoyenneté, de la souveraineté. Qui est le souverain du système? Ça doit être discuté. Donc, je vois bien qu'en ce moment, on est dans cette optique du franco-allemand moteur de quelque chose, mais on voit très bien que ça coince, que ça n'a plus la même logique qu'hier. Donc, si la France et l'Allemagne, enfin les Allemands et les Français pourraient être utiles. Je trouve que c'est ouvrir le débat et c'est transférer un débat entre nations en un débat entre citoyens qui doivent s'imaginer une Europe démocratique, souveraine et une Europe sociale. Et du coup, on arrive à un autre débat. Du coup, la question n'est pas vous êtes Français et moi je suis l'Allemande, mais comme ça a été dit, est-ce qu'on veut un Parlement européen qui a quelque chose à décider? Est-ce qu'on veut un président qu'on va élire nous-mêmes? Est-ce qu'on veut un président, un ministre des Finances européen qui est responsable, oui ou non, devant un Parlement européen? Qui est accountable? Donc c'est d'autres questions. Si la France et l'Allemagne, au niveau institutionnel, pourront lancer ce débat d'une manière beaucoup plus virulente, je serais très d'accord. Mais si c'est un débat franco-allemand qui entraîne les autres nations, je pense que ça ne marcherait plus.
Juste un mot, Marion Gaillard, pour conclure.
Je suis tout à fait d'accord, puisque j'avais soutenu le projet de traité de Piketty. Donc je suis favorable à des majorités de citoyens à travers le Parlement européen. Mais pour l'instant, celui qui portait ce traité n'a pas gagné l'élection présidentielle, à savoir Benoît Hamon. Et c'est une position qui est minoritaire. Donc on est obligé de faire avec ce qu'on a. Après, faire évoluer les choses pour avoir un débat démocratique parlementaire, oui, oui, oui.
Eh bien, on verra bien comment les choses évoluent, notamment à la faveur de ce prochain sommet européen. On verra si le couple franco-allemand a retenu ses petites leçons, ses avertissements de ne pas vouloir être absolument dans une approche de directoire, mais bien dans quelque chose de beaucoup plus collectif. Merci en tout cas à toutes les trois d'avoir participé à cette discussion. Marion Gaillard, Ulrike Guéraud et Barbara Kunz. Merci également à toute l'équipe du Grain, Leïla Saïdi, Fanny Richer, Virginie Ledoux, Antoine Dulster et Prune Saez. Émission réalisée par Véronique Villa avec à la prise de son Pierrick Monsigny. Dans un instant, ce sera la dispute avec vous, Arnaud Laporte.
Dans 3 minutes environ, on va parler de théâtre ce soir, comme souvent le lundi soir, et demain dans Du Grain à Audrey Regardette. Quelle question sera posée ?
Je ne sais pas si vous êtes un adepte de l'homéopathie ou de l'acupuncture, mais on va se demander si les médecines alternatives font plus de mal que de bien. Et non pas l'inverse.
Je suis invité à répondre ou...
Ah bah vous pouvez venir si vous voulez. Je sais pas comment vous soignez, mais vous n'êtes jamais malade.
toujours à l'antenne. Merci beaucoup Hervé Gardette. Et tout de suite à 19h, les titres de l'actualité sur France Culture avec Aurélie Kiefer.